Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 9 avril. Déjà, il est tout pile 8 heures. Je suis Marion et aujourd'hui, on va discuter actualité tech avec le Mug. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous avez la forme ce matin. Je suis ravie de vous retrouver en ce mardi de printemps, j'ai envie de dire, parce que les températures ont un petit peu augmenté. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais en tout cas, nous, on a eu un week-end assez doux. Donc, j'en profite pour vous dire bonjour dans la chatroom. Salut Oli, salut Jean-Phi, salut Alan Poisson, salut Oleg, salut Polaire, salut Allianz, salut Mécano, salut Baba. C'est un grand merci pour ton soutien. Tu ouvres le bal ce matin des soutiens. Un grand merci à toi. Salut Edgil, salut Manon, salut Wasp, salut Grolb également que j'ai vu passer par là. Salut Fanemi. Nous, il faisait trop chaud, carrément, ouais, carrément. C'est vrai qu'il faisait trop chaud pour la saison. Nous, il faisait pas non plus trop chaud. On était tranquille en t-shirt, mais ça allait. Salut Nounik, salut Kéoro, salut The Garlic Snail. Bonjour à tous, bonjour à la chatroom. En tout cas, voilà, donc on commence la semaine du bon pied, même si c'est mardi, que vous avez déjà fait un premier jour. Moi, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi. Pas mal de petits articles assez sympas ce matin. Et comme promis, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, j'ai une série au moins, dont on pourra parler et discuter ensemble ce matin. Plus exactement, c'est une série dont je vous ai déjà parlé pour la saison 1, pour laquelle j'avais eu un gros coup de cœur. Et ben là, j'ai vu la saison 2 et j'ai eu un coup de cœur plus encore à une saison 2 qui est encore mieux que la saison 1. Et je ne l'aurais pas cru possible. Mais si, ils l'ont fait. Donc, je vous parlerai de Extraordinary saison 2 qui est disponible sur Disney+, une série britannique, une comédie britannique aussi hilarante que émouvante. Donc, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà. Et donc du coup, et Grolb confirme, donc tout va bien. on pourra en parler. S'il y en a qui connaissent, ça serait trop bien. Tu devrais regarder Alice in Borderland si tu ne l'as jamais vue. Je ne l'ai jamais vue, Aaron Stone. Tu m'en parleras tout à l'heure. Ça m'intéresse d'en savoir plus parce que c'est pas la première fois que j'entends le titre de cette série, donc ça m'intéresse d'en savoir plus. Faudra que tu me la pitches en une phrase. Voilà. Mais sinon, de quoi va-t-on parler ce matin? Avant de parler série, on va quand même parler de l'actualité tech, hein, c'est quand même le but de l'émission. Et on a des choses assez sympas ce matin. On va parler de Duolingo. Duolingo, je pense que la plupart d'entre vous doivent connaître cette application dans la chatroom. Application qui vous permet d'apprendre des langues. Nous, on est en plein dedans avec Jérôme. On essaye d'apprendre le japonais et c'est assez étonnant. Une langue assez loin du français quand même, mais c'est assez passionnant. Enfin, moi, je m'amuse pas mal avec. Je ne prétends pas pouvoir tenir une conversation, loin de là, mais je commence à reconnaître quelques caractères et à mémoriser quelques mots. On verra. Coup d'œil, pas mal, Olek. Je n'avais pas du tout pensé à cette écriture à la française. Donc on parlera de Duolingo et des nouveautés qui arrivent dans Duolingo qui étend son champ d'apprentissage, et ça c'est pas mal. On parlera ensuite d'une autre application que vous connaissez très certainement, c'est évidemment Spotify, l'application phare européenne de musique, de streaming musical, et on parlera notamment d'une nouvelle manière de créer des playlists, parce que voilà, soit on passe par enregistrer des playlists déjà existantes, soit on passe par la case de « je l'ai fait moi-même et ça peut prendre du temps ». Mais là, Spotify a développé une nouvelle manière de créer des playlists qui vont vous faciliter peut-être la vie. Et donc ça peut être assez intéressant. Et puis après, on parlera du titre de l'émission ce matin. C'est l'alliance étonnante entre Sam Altman, le dirigeant de OpenAI, Johnny Ive, l'ex-designer ultra connu d'Apple, et également Lauren Powell Jobs, l'ex-femme, enfin pas l'ex-femme, la veuve finalement de Steve Jobs, qui est aussi une businesswoman, et qui vont potentiellement s'allier pour créer une société, ou en tout cas un produit qui pourrait peut-être concurrencer l'iPhone. On reviendra dessus tout à l'heure. Et puis après, on continuera avec de l'intelligence artificielle, mais cette fois-ci, on parlera de Google et OpenAI et comment, sur quelles données ils essayent d'entraîner leurs modèles d'intelligence artificielle. Est-ce qu'ils essayent de les entraîner sur leurs propres données ? Pas forcément. Et on reviendra potentiellement sur certaines rumeurs. Pas grand-chose de confirmé encore là-dessus. Et puis ensuite, on parlera de TikTok un petit peu. TikTok qui aurait dans les cartons une nouvelle application. Voilà, ils sont en train de préparer peut-être l'arrivée d'une nouvelle application. Sur quoi elle sera ? Eh bien, elle serait peut-être en concurrence directe avec Instagram. On reviendra sur qu'est-ce qu'on sait de cette potentielle nouvelle application TikTok. Et puis on parlera ensuite de Instagram justement, voilà, on bougera sur Instagram et on reviendra notamment sur la manière dont ils font de l'argent. En effet, on a eu des documents qui ont été dévoilés, dans un cas où Meta essaye de se débarrasser d'une attaque de la FTC, comme quoi ils ont un monopole. Et donc du coup là-dedans ils ont dû dévoiler des informations avec des documents et donc ça dévoile aussi un peu plus comment ils génèrent du revenu grâce à Instagram. Et ce qui est intéressant, c'est que on s'aperçoit que finalement le revenu publicitaire d'Instagram est assez important. Est-ce qu'il est plus important que celui de YouTube ou pas? Eh ben, la réponse risque de vous étonner. Et puis on terminera la matinée avec la série dont je vous parlais tout à l'heure, Extraordinary saison 2, série britannique disponible sur Disney+. Voilà, donc restez connectés jusqu'à la fin de l'émission. J'espère que le programme vous plaît. Je regarde un petit peu si des nouvelles personnes nous ont rejoints ce matin pour leur dire bonjour. Salut à vous, salut Pierre Roots, salut Vlad Josiane, salut Gaël Smile, salut Siven, salut à tous. Là-dessus, je vous propose de commencer sans plus tarder avec le premier article. Le premier article, c'est donc l'application Duolingo. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas parlé de Duolingo, cette application avec la chouette que l'on connaît bien. Je vais vous l'afficher là, tant qu'à faire. Ça peut être assez sympa de vous rappeler à quoi elle ressemble et surtout parce qu'en fait, elle a un petit peu changé récemment. Vous allez me dire qu'il y a peut-être quelque chose d'étrange sur la page de l'App Store de l'application Duolingo. Elle a l'air un peu fatiguée, notre chouette. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous voyez un petit peu l'icône Duolingo, cours de langue, et vous voyez que la petite chouette, elle a un peu mauvaise mine. Non seulement elle a l'air d'avoir des cernes ou peut-être même des rides, mais alors en plus elle a l'air pas très très en forme. Et juste le changement finalement de l'icône de l'application a fait grandement parler de l'application Duolingo. Donc ça, en termes de coût marketing, c'est quelque chose qui a pas mal fonctionné. En tout cas, en ligne et sur les réseaux sociaux, pas mal de personnes ont relevé le changement de l'application. Oleg nous dit une tête d'Angry Bird, ça tourne mal. Babas nous dit elle a pris un coup de vieux. Et ben ouais, c'est un peu ça. Et en fait, ce qui s'est passé, ben, on le sait juste en dessous. Avec la mise à jour qui a été communiquée, eh ben, des nouvelles leçons font leur arrivée sur l'application Duolingo. Et c'est l'arrivée des maths et de la musique. Et non, c'est pas une blague. Des nouveaux cours sont carrément disponibles. Alors là, j'aurais dû télécharger, mais je peux vous le montrer sur tout simplement, hop, mon iPhone. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça, à quoi ça ressemble très rapidement. Hop. Mais maintenant, lorsque vous voulez choisir vos cours et votre apprentissage dans Duolingo, et ben, tout simplement, comme d'habitude, vous avez donc le cours de langue ici en haut à gauche. Je ne sais pas si on le voit très bien. Ici, voilà, le cours. Donc là, vous voyez que j'ai le petit drapeau japonais parce que c'est ce que je suis en train d'apprendre en ce moment. Et quand vous cliquez dessus, vous avez donc les différentes langues et tout qui sont disponibles. Et en dessous, ce que vous voyez, c'est donc l'icône maths et musique, juste là. Donc là, ce sont les nouveaux cours qui sont disponibles. Donc ça, c'est la petite nouveauté disponible dans l'application Duolingo. Et donc, du coup, voilà, ils ont fait un petit coup marketing bien envoyé avec le changement de l'app et de l'icône. Elle en a marre de mes jeux de mots en apprentissage de japonais. Ouais, j'avoue. Mais voilà, le changement d'apparence, c'était justement pour créer un petit peu le buzz autour de cette nouvelle annonce. Donc, une application qui est passée en version 7.17.1. Duolingo, ça fait des années que ça existe et c'est un exemple en termes d'apprentissage de langue, de gamification et de fonctionnement de communauté aussi, hein, parce qu'il y a tout ce qui est... classement avec les autres personnes qui apprennent les langues, vous pouvez retrouver vos amis, etc. Là, nous, on est carrément dedans entre Jérôme, moi et mon frère à essayer d'apprendre le japonais. C'est plus facile pour certains que pour d'autres. Mais c'est assez rigolo parce que du coup, on voit un peu les mécanismes de... On peut soutenir les uns, on peut leur envoyer des espèces de j'aime pour qu'ils puissent renouveler leur cours. Enfin, voilà. Donc ça, c'est assez cool. Donc maintenant, c'est l'arrivée des mathématiques et de la musique. Donc on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que ça vient faire dans une application de langue parce que ça s'appelle quand même Duolingo, quoi. Vraiment, il y a la notion de langue. Et là, on peut tout simplement se poser la question, mais est-ce que les maths et est-ce que la musique sont pas des langages en soi? Et ouais. Et donc là, du coup, c'est là où on peut aussi se dire que c'est pas complètement déconnant et c'est plutôt bienvenu, je trouve, de faciliter l'apprentissage sur des nouvelles thématiques. Donc moi, je suis plutôt agréablement surprise de voir comment Duolingo peut se renouveler. Donc je trouve ça vraiment très, très bien. J'aurais bien aimé aussi qu'ils permettent l'apprentissage de certaines langues depuis le français, hein, parce que nous, on apprend le japonais depuis l'anglais. Donc, du coup, c'est pas forcément facile pour tout le monde, pour ceux qui sont intéressés, je pense. Mais je trouve ça chouette quand même qu'ils travaillent à l'arrivée de nouvelles thématiques, de nouvelles matières disponibles sur l'application. Surtout que voilà, si ça peut baisser la barrière un peu sur l'apprentissage des maths et de la musique et rendre ça encore plus ludique, je trouve ça très, très bien. Est-ce que vous, dans la chatroom, est-ce que vous seriez... alors, peut-être que ça ne s'adresse pas à vous, mais est-ce qu'une application comme Duolingo, ça aurait pu vous aider à apprendre une matière, pour ceux qui étaient un peu peut-être réfractaires aux maths ou à la musique, vous aider à apprendre les maths ou la musique? C'est ma fille qui m'a fait connaître, ouais. J'ai hâte qu'ils ajoutent la compta, nous dit Grolp. On n'y est pas encore. Seulement sur iPhone, j'ai pas les nouveautés, mais pas de match de l'app disponible. Silsilo, ça risque d'arriver, je pense, sur Android. Il n'y a pas de raison. Peut-être qu'il y a un petit décalage sur à quelle date les mises à jour sont disponibles sur les stores. Mais Duolingo étant disponible sur Android, ça serait très étonnant que ça n'arrive pas sous peu sous Android, hein, quand même. Alec nous dit « Je ne serai jamais assez assidu avec une app, j'en suis sûre. » Ah, j'avoue que là, moi, ça fait... j'en suis à 32 jours. Hein, 32 jours de petites leçons tous les jours de japonais. J'utilise pour l'anglais, je vais tester la partie musique. Pour la partie maths, je ne suis plus la cible. Et moi, pour la partie musique, je serais assez curieuse. C'est pour apprendre les maths en général, ouais. C'est pas pour apprendre les maths dans une autre langue. Matt Leven. Non, mais est-ce que là, ça devient trop compliqué quand même Aïe, aïe, aïe. Jérôme nous sort les jeux de mots en japonais. C'est compliqué. En fait, la chouette Duolingo, elle fait sa tête parce qu'elle doit se coltiner les jeux de mots pourris de Jérôme quand il apprend le japonais. Et là, je comprends pourquoi ils ont changé l'icône, quoi. Est-ce que tu peux nous dire bonjour en japonais? Konnichiwa! En 6 mois, je commence à penser en thaï. Ah ouais, je trouve que c'est vraiment le vrai test d'arriver à penser dans une langue. Je trouve que c'est le vrai test pour voir si on commence à se sentir à l'aise ou pas. Donc voilà. Du coup, il va falloir revoir le nom de l'app. Bah, pas forcément, parce que si tu penses que les maths et la musique, c'est des langages, je trouve que Duolingo, ça continue à bien marcher. Alors là, Chakotay, j'ai pas ce niveau encore japonais. J'ai pas encore appris Ohayou gozaimasu. Je regarde Shogun pour apprendre le japonais. Hein. Nous, on regarde Shogun et Tokyo Vice saison 2, là. On est à fond, là. Bon, là-dessus, je vous propose de continuer. Maintenant, vous êtes au courant, en tout cas, des nouveaux cours qui sont disponibles sur l'application et de la communication assez maligne de l'application pour déclencher la curiosité de la communauté sur les réseaux sociaux. Voilà, avec l'application qui est carrément devenue un sujet de conversation avec un joli tremplin donc pour lancer cette mise à jour avec les nouveaux cours de maths et de musique qui sont désormais disponibles, en tout cas sur iOS, très bientôt, très certainement sur Android, si ce n'est pas déjà le cas. On continue avec Spotify cette fois-ci, autre application ultra connue, évidemment, Spotify, application de streaming musical majeure et européenne. Et qu'est-ce qui se passe de leur côté? Ben, ils y vont aussi de leur innovation grâce à l'intelligence artificielle. Dimanche, ils ont introduit tout simplement une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de créer plus facilement des playlists. Les playlists, évidemment, des listes de chansons que vous pouvez jouer, soit d'un même artiste, soit d'artistes différents sur une thématique donnée. Et donc là, tout simplement, ils vont vous permettre d'utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir, avec un prompt, donc un prompt en texte, pouvoir générer une liste, une playlist de musique qui est alignée avec ce que vous recherchez, avec votre demande. Alors pour l'instant, c'est disponible en bêta. D'abord aux abonnés premium en Grande-Bretagne et en Australie uniquement, donc pas encore disponible en France. Donc vous étonnez pas si vous ne trouvez pas encore la fonctionnalité, hein, disponible uniquement en Grande-Bretagne et en Australie. Et ça vous permet tout simplement de vous laisser rentrer donc un prompt textuel pour générer une playlist. Alors Spotify justement, ils ont communiqué quelques exemples de prompts. Et alors, je vais essayer de vous le traduire en français. Là, par exemple, c'est une playlist indie folk pour donner à mon cerveau un gros câlin, big warm hug, un gros câlin réconfortant. On va dire ça comme ça. Donc voilà, donc une playlist indie folk pour donner à mon cerveau un gros câlin réconfortant. Un autre exemple de prompt, c'est de la musique relaxante pour me faire passer la saison des allergies. Voilà. Désolée, hein, mes traductions sont un peu maladroites. Vous pouvez aussi demander une playlist pour de la musique pour me mettre dans l'humeur de la saison de basketball. Voilà, pour me mettre dans le mood de la saison de basketball qui arrive, ou de la musique pour combattre les aliens qui nous envahissent, ou une playlist dérangeante à écouter lorsque je peins des clowns. Assez rigolo celui-là. On sait que les clowns se divisent pas mal et notamment peuvent faire flipper certains. Et donc là, du coup, une playlist dérangeante à écouter pendant que je peins des clowns, c'est pas mal. Ou une playlist de chansons qui me fait me sentir comme si j'étais dans un film. Voilà, ça aussi c'est pas mal. Alors, après quel film, on pourrait être un peu plus spécifique, évidemment. Et donc du coup, le prompt en question que vous renseignez, que vous écrivez, peut faire référence à des endroits, des animaux, des activités, des films, des personnages, des couleurs ou même carrément des émojis. Spotify va évidemment choisir les titres depuis une variété de genres, de décennies, d'artistes, etc. Mais tout ça par rapport à déjà ce qu'il connaît de vous en termes de préférence de musique. Donc, il va pas juste générer une playlist random sur, enfin, au hasard par rapport au texte que vous aurez soumis. C'est que, en fonction du texte que vous avez soumis et du profil qu'il connaît de vous en termes de préférence musicale, il va adapter les chansons qui feront partie de cette playlist. Et donc, du coup, deux personnes différentes qui vont rentrer le même prompt d'intelligence artificielle vont obtenir évidemment des playlists différentes parce que non seulement ça prendra en compte le prompt d'intelligence artificielle, mais également votre profil Spotify et vos propres préférences musicales. Il y a des choses que vous pouvez faire. Vous pourrez également itérer un petit peu sur la playlist avec encore ce prompt textuel, c'est-à-dire la playlist ne va pas s'arrêter au premier prompt que vous aurez saisi. Vous pourrez encore une fois l'affiner avec l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, vous pourrez lui dire, une fois qu'il a généré une première playlist, prends des chansons un peu plus récentes ou prends des chansons un peu plus lentes, etc., pour affiner un peu la playlist. Exemple, moi, je me vois très bien générer une playlist pour aller, enfin, une playlist indie rock pour aller courir. Et donc, potentiellement, je vais vouloir des chansons un peu, un rythme, avec un rythme un peu plus rapide ou un peu plus lent en fonction de ce que je recherche. Voilà. Donc, ça peut être assez cool. Moi, ça m'intrigue assez. J'avoue que ça me saoule que ça soit disponible que pour les premium utilisateurs. Je serais curieuse de tester la fonctionnalité, ça pourrait peut-être me faire revenir sur l'application. Là, j'avoue que j'ai tout bougé sur Apple Music, mais je trouve ça assez sympa. Parce que du coup, je cours toujours avec la même playlist, et même si j'ai mis plein de chansons dedans, j'ai toujours un peu les mêmes titres. Donc c'est ça qui est un peu pénible aussi. Les prompts qui ne seront pas autorisés, par contre, évidemment, pour générer des playlists, c'est quand ça inclut des marques ou des événements actuels, ou des descriptions qui ne sont pas liées à la musique, voilà, ou des choses qui sont potentiellement offensantes, voilà. Donc pour l'instant, voilà. Mais je trouve ça assez intéressant. Est-ce que vous, dans la chatroom, je vais faire un petit sondage. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sondage. Alors, évidemment, j'ai toujours ce clavier que j'adore. Hop. Alors, est-ce que vous seriez tenté par AI Playlist, donc pouvoir générer des playlists avec l'intelligence artificielle? Et voilà, et donc je vais le mettre, allez, on fait un petit truc rapide de 2 minutes. À vous dans la chatroom, est-ce que vous seriez tenté par AI Playlist? Carrément, envie d'essayer? Bof, pas du tout. Moi, j'avoue que je suis assez intéressée, hein. Je suis assez flemmarde. Enfin, assez flemmarde, oui et non en ce qui concerne la musique. Mais c'est vrai que j'aime bien les créer moi-même, mais pour le jogging, pas forcément. Je les rajoute au fur et à mesure, mais j'avoue que j'ai pas assez de variété. J'aimerais bien avoir 3-4 playlists différentes sur lesquelles tourner. Je me demande si c'est pas le genre de truc qui va toujours mettre un peu le même. Attends, j'essaie de retrouver ton commentaire. Toujours un peu mettre les mêmes musiques. Silo à voir, franchement, ça dépend. Je pense que Spotify essaye toujours de trouver l'équilibre entre vous mettre des titres que vous aimez et également vous faire découvrir d'autres titres similaires. Donc je pense que non, leur intérêt c'est quand même d'essayer d'élargir un petit peu ta connaissance musicale. Enfin, pas forcément ta connaissance musicale, mais la variété des titres aussi. Tu cours avec quel type d'écouteurs? J'ai mes préférés pour l'instant, c'est les Jaybird qu'on m'a offert à mon anniversaire ou mon Noël il y a 2 ans, je crois. C'est des espèces, ouais, des Jaybird. Donc j'aime bien parce qu'ils sont reliés par un fil. Je veux absolument pas courir avec des écouteurs qui sont pas reliés parce que je pense que c'est trop facile que ça tombe. Et j'ai pas envie de m'arrêter dans ma course alors qu'avec le fil, au pire, ça tombe autour de ton cou. Donc je cours avec des Jaybird qui permettent de bloquer un petit peu dans l'oreille. Mais j'aimerais bien tester. Mais je n'ai pas de bonnes raisons de changer d'écouteurs parce que ceux que j'ai fonctionnent très bien. Mais j'aimerais bien tester des écouteurs à conduction osseuse pour pouvoir mieux entendre les bruits parce que j'avais compris que ça permettait de mieux entendre les bruits aux alentours. Et j'avoue que ceux que j'ai, ils sont à la fois bien parce qu'ils sont intra-auriculaires et donc du coup ils m'isolent un peu des bruits et j'entends bien la musique. Mais de l'autre, ils m'isolent peut-être un peu trop des bruits extérieurs. Et du coup, je suis peut-être un peu moins vigilante, ce qui est un peu dangereux de courir quand tu cours spécifiquement en ville. Mais j'ai plus le nom du modèle spécifique des Jaybird. Je retrouve moi des musiques dépressives, ça marche. Ce serait intéressant de savoir s'il analyse la musique qu'il va diffuser. Je pense par exemple à lui demander une playlist de musique sans parole ou une playlist de chants a cappella. Bah pourquoi pas, Mancia? Moi, je me ferais bien une playlist de musique classique minimaliste du type. C'est quoi les deux artistes que j'aime? C'est. Ah, j'ai oublié le nom. Mince. Celui qui a fait la BO de The Leftovers. Ah, pénible. C'est. Max Richter. Ouh. Voilà. Je crois que c'est un de mes compositeurs préférés. Donc, pourquoi pas découvrir d'autres artistes similaires. J'avoue que j'adore à me mettre une playlist de musique classique sans paroles comme ça et minimaliste quand je bosse parce que je trouve que ça me permet d'être ultra concentrée sur ce que je suis en train de faire. Je suis dans ma bulle et je suis vraiment voilà, je suis hyper productive quand je fais ça. Alors quand il y a des paroles, j'ai envie d'écouter un peu les paroles, c'est un peu mon problème. Après, ça dépend sur quel type de tâche. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, en termes de résultats de playlist, est-ce que vous seriez tenté par AI Playlist? Quand même, pas mal, hein? La plupart d'entre vous sont assez intrigués enfin, ont quand même voté carrément. Donc, plus que même juste envie d'essayer, c'est carrément intéressé. Il y en a quand même 24% qui ont répondu envie d'essayer. Et finalement, 21% bof et 18% seulement sur pas du tout. Donc voilà, donc pour l'instant, assez positif finalement comme a priori sur cette nouvelle fonctionnalité de Spotify. Si ça marche ne serait-ce qu'un peu mieux que les systèmes de suggestion, ça serait pas mal, ouais. J'avoue, j'aimerais bien tester car j'ai du mal à découvrir des nouveaux artistes. Oui, c'est toujours la chose un peu compliquée, je trouve. Voilà. J'utilise des AirPods, ça tient bien. Ouais, moi, pour la course, je veux pas utiliser mes AirPods, ouais. Je veux pas prendre le risque que ça tombe, etc. Et Philip Glass, ouais, Bad Babylon, oui, pour la musique minimaliste, ouais, tout à fait. Philip Glass et Max Richter sont un peu les deux compositeurs vers qui je vais sur cette thématique. Oui, son Vivaldi recomposé est assez fou, ouais. Ouais. Tout à fait. Jaybird, c'est Logitech. Eh ben, écoute, je ne savais même pas, Mimi Cackle. Alors que moi, au travail, j'écoute Marion. Et t'as pas l'air ultra focus, hein, Quentin, parce que tu parles dans la chatroom. On est d'accord que la sonnerie dépliage sur iPhone 15 est une inspiration de The Leftover. What? Johan? C'est quoi cette histoire? J'ai envie d'aller tester. Je sais même pas où on trouve les sonneries. Attends, sonneries. J'ai peur de vous tuer les oreilles. Tu m'as dit dépliage. Ah mais carrément! Mais Carrément!
Merde, j'ai changé ma sonnerie du coup là. C'est un peu déprimant quand même pour une sonnerie. Bon, je la changerai tout à l'heure, mais carrément! Mais carrément, Johan. Enfin, je sais plus qui m'a dit ça. Oui, c'est ça, c'est Johan. Carrément comme inspiration, The Leftovers. Joli comme. Tu vois, je n'avais même pas réalisé. J'avoue, je n'avais pas testé toutes les sonneries de l'iPhone. Mais ouais, l'inspiration est assez folle, hein. Très bien, très bien. Tu connais Jean-Michel Blais, compositeur classique contemporain québécois. Il est génial. Ben écoute, non. Et donc, je vais prendre en photo. Hop, pour pas oublier le nom. Hop, merci. Merci, merci. Je testerai. Merci pour la recommandation. Donc voilà, bah maintenant vous êtes au courant. Nouvelle manière de générer des playlists musicales qui arrivent sur Spotify. Attention, je rappelle, c'est pour l'instant disponible uniquement en Grande-Bretagne et en Australie. Donc il va falloir patienter un petit peu pour que ça arrive dans nos contrées. Mais voilà, si ça fonctionne bien dans ces pays-là, il y a de fortes chances que ça arrive rapidement en France. Moi, bon, en tout cas, je serais très très curieuse de tester et a priori, vous aussi. On continue avec l'intelligence artificielle, mais également des projets qui croustillent. Projets qui croustillent parce qu'il y a des rumeurs comme quoi Johnny Ive, Sam Altman, donc Johnny Ive, designer ultra connu d'Apple, qui n'est plus chez Apple, Sam Altman, CEO de OpenAI, et Lauren Powell Jobs, veuve de Steve Jobs et businesswoman, voilà, très très connue pour ce qu'elle fait aussi, seraient trois noms qui s'associent pour un projet assez intéressant qui viserait peut-être à concurrencer l'iPhone. En tout cas, voilà, il y aurait des discussions en cours pour justement travailler ensemble. Donc, pour rappel, hein, voilà, Johnny Ive, il était quand même à l'origine de l'iMac, de l'iPod, de l'iPhone, de l'Apple Watch et de tout ce que Apple a fait jusqu'à 2019. Sam Altman, on connaît pour ChatGPT, mais pas que. Et puis, Lauren Powell Jobs, elle est à la tête de diverses fondations aux États-Unis, dont Emerson Collective. Elle est également l'héritière donc de Steve Jobs et continue à défendre sa vision. Et donc, a priori, on aurait donc Johnny Ive et Sam Altman qui seraient en discussion pour créer un produit dédié à l'intelligence artificielle. C'est pas tout à fait étonnant avec Sam Altman dans la boucle, évidemment. Pourquoi Lauren Powell Jobs serait impliquée dans ce projet, c'est tout simplement parce que elle pourrait financer, faire partie des sociétés qui financent le projet. Donc, a priori, il ne s'agirait pas d'un smartphone ici, mais pourrait néanmoins être une menace quand même pour l'iPhone en remplaçant peut-être potentiellement plusieurs de ses fonctions. Donc ça serait un peu une approche qui pourrait être assez similaire à la société Human dont on a déjà parlé. Et qu'on connaît pour son AI pin, vous savez, ce petit rectangle que vous accrochez ici, auquel vous pouvez parler, et qui peut même projeter un petit peu des images sur votre main ici, et qui peut prendre des photos, etc. Donc, Human, je vous montre la petite photo pour ceux qui ne se rappellent pas de à quoi ça ressemble. Ça ressemblerait à ça, ce petit accessoire hardware que vous voyez ici sur la photo. Donc, ça se rapprocherait de cette vision. Ça ne veut pas dire que ça ressemblerait à ça, mais ça se rapprocherait en termes de vision. Donc, pour financer ces travaux, ben la start-up aurait besoin d'1 milliard de dollars. Et donc, c'est là où elle va chercher du financement. Évidemment, elle va chercher du financement auprès de OpenAI en échange d'une partie du capital, mais se tourne également vers l'extérieur. Et notamment, c'est là où Emerson Collective, donc de Lauren Powell Jobs, rentrerait dans la boucle. Mais pas seulement, il y aurait également Thrive Capital, qui sont un peu les deux candidats hein, qui pourraient s'associer au projet. Donc c'est assez intéressant. Est-ce que ça sera quelque chose de généraliste ou est-ce que ça sera axé sur des secteurs en particulier? À voir. En tout cas, si on s'intéresse un peu au secteur d'activité des organisations que Lauren Powell Jobs dirige, elle s'intéresse principalement à l'éducation, l'environnement et aux médias. Donc potentiellement, ça pourrait aussi être quelque chose qui s'intéresse de plus près finalement à ces secteurs. À voir. On n'a pour l'instant aucune information confirmée. Hein. Donc tout ça, c'est vraiment à prendre avec des grosses pincettes parce que ce ne sont que des rumeurs pour l'instant. Voilà, voilà. J'en profite, puisque du coup, j'ai terminé avec cet article, pour remercier ceux qui nous soutiennent ce matin. Un grand, grand merci à Quentin Lala, à Andy76, à CCR95 et également à Eloriel29. Merci à tous pour vos soutiens. Ça fait chaud au cœur et surtout, ça nous permet de continuer à produire du contenu de qualité et rémunérer les personnes qui travaillent sur ce contenu. Un grand, grand merci à vous dans la chatroom. C'est marrant, alors nous dit Oleg, c'est marrant, ça disparaît pas dans le brouillard comme par mal des gadgets. Ce truc, ça a l'air de vouloir tenir. Human, à voir. Je pense que c'est encore un peu trop tôt et la hype autour de l'intelligence artificielle est encore un peu trop grande. On verra. Donc voilà. Donc il y aurait des projets dans les cartons. Très certainement, ce n'est pas le seul projet qu'il y aurait ici sur du hardware qui viendrait peut-être bouleverser un petit peu nos habitudes. À voir. On continue sur l'intelligence artificielle. Et cette fois-ci, c'est pour développer ces intelligences artificielles, il faut bien les entraîner. Et il faut bien les entraîner avec des données. Et donc là, c'est tout le problème de toutes ces sociétés qui essayent de renforcer et de développer leur modèle de langage. Et donc ici, on retrouve encore une fois OpenAI, mais pas que, on retrouve également Google avec Gemini ou Gemini. Et donc, il y aurait encore une fois ici, ce sont des rumeurs, il n'y a eu rien de confirmé, donc attention. Mais en tout cas, on sait que OpenAI a fait un peu les gros titres récemment, après que son CTO ne pouvait pas dire définitivement si la société avait entraîné leur modèle de génération de vidéos Sora sur des données YouTube ou pas. Et il semble que la plupart des géants tech, OpenAI, Google et Meta, auraient tapé dans potentiellement du contenu non autorisé pour l'entraînement des modèles de langage. Et donc ça, c'est assez intéressant. On a notamment le New York Times, hein, qui est un peu vent debout contre l'intelligence artificielle, pas forcément contre l'intelligence artificielle en tant que soi, mais contre le fait de taper dans des contenus pour lesquels il n'y a pas eu de notion de licence pour l'autorisation d'utiliser ce type de contenu pour entrer des modèles de langage. Et c'est un peu le Far West ici, hein, c'est-à-dire qu'ils sont allés très très vite pour essayer d'entraîner leur modèle et d'être le plus rapide avant que la législation se musque un petit peu et avant qu'on leur coupe l'herbe sous le pied. Donc, c'est un peu vraiment arrivé comme des cow-boys, j'ai envie de dire. Et justement, le New York Times pointe du doigt cette pratique et mentionne notamment que OpenAI aurait transcrit 1 million d'heures de YouTube vidéo en utilisant leur technologie Whisper dans le but d'entraîner GPT-4, leur modèle d'intelligence artificielle. Du côté de Google, qui est le propriétaire de YouTube, aurait potentiellement fait la même chose. On n'a pas de confirmation officielle ici, mais ils auraient potentiellement fait la même chose, violant peut-être aussi les droits des créateurs. Et donc, ça serait peut-être pour ça qu'ils ne sont pas allés poursuivre OpenAI sur leurs pratiques. Et d'ailleurs, on a une interview du CEO de YouTube, hein, Neil Mohan, qui a été publié chez Bloomberg cette semaine, qui mentionne que selon les termes de la société, il n'autorise pas justement les choses comme des transcripts ou des morceaux de vidéos à télécharger, et ce serait une violation claire des termes d'utilisation de la plateforme. Mais quand on interroge le CEO de YouTube sur est-ce que les données de YouTube et les vidéos de YouTube ont été scrappées par OpenAI, ben là, le CEO est plus évasif. Hein. Il n'infirme pas non plus. Il dit, j'ai vu des rapports où ils auraient ou pas utiliser les données de YouTube. Je n'ai pas d'informations moi-même. Donc là, il reste très, très précautionneux justement sur cette information. Il ne se positionne pas parce que du coup, bah, il engagerait la responsabilité aussi ensuite de Google, de YouTube plus précisément, et potentiellement de devoir répondre des actes d'OpenAI ou en tout cas de les poursuivre, etc. En tout cas, ce qu'on sait ici, un peu plus de certitude peut-être, c'est que Google a changé ses termes d'utilisation hein, durant un week-end de vacances qui lui permettrait du coup d'utiliser les documents publics de Google Docs ou notamment aussi les critiques publiées sur Google Maps de restaurants et d'autres informations d'Internet pour entraîner leur intelligence artificielle. Donc on voit clairement que là, ils sont en train de nettoyer un petit peu ça et de préparer un peu le terrain pour que légalement ça tienne la route et se protéger aussi sur la possibilité de pouvoir entraîner leur intelligence artificielle avec de la donnée. Et c'est vrai qu'il y a cette information-là, hein, il y a le fait de respecter les données des utilisateurs, de les informer sur comment ces données sont utilisées. Je vous rappelle que quand même, ça fait partie du RGPD, hein, du Règlement européen sur la protection des données des utilisateurs et des Européens. Et donc, du coup, on doit informer les utilisateurs sur comment leurs données sont utilisées. Voilà. Et donc, du coup, je parlais du New York Times tout à l'heure. Ben voilà, le Times, justement, lui, a mis un peu appuyé sur la pédale de freinage un petit peu sur le scrapping de données. Hein, et justement, ils ont intenté une action contre OpenAI et son partenaire Microsoft pour avoir utilisé le Times et son contenu pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle. Et donc ça, c'est en cours. Hein. Il n'y a pas encore eu de jugement final sur ce dossier. Mais en tout cas, on sent que les créateurs de contenu, les producteurs de contenu les médias s'arment un petit peu plus pour ne pas se laisser faire, en tout cas, sur ça. Et puis, il y a eu des accords hein, entre notamment OpenAI et des médias pour justement avoir des accords de licence pour pouvoir utiliser et référencer des médias spécifiques. Donc, à voir si c'est une pratique qui va se généraliser. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir cette problématique qui est assez clé finalement pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle. Jérôme qui nous dit si GPT-4 prend des bouts de mes jeux de mots dans les vidéos, il va s'autodétruire. Pas mal. Si Sora a visionné des millions d'heures de YouTube, est-ce que YouTube a pas moyen de le savoir justement ? C'est question technique ici. Je suis pas sûre que ce soit évident de le savoir. Pas sûr que ce soit évident, peut-être en traquant les IP qui ont regardé les vidéos, etc. Tu verras des employés OpenAI, je suis même pas sûr que ce soit comme ça que ça fonctionne, honnêtement. Je m'y connais pas assez en technique pour te dire ça. En tout cas, voilà. Je vous propose de continuer avec cette fois-ci, on va s'intéresser aux réseaux sociaux et on va prendre des nouvelles de TikTok et Instagram. Et on va commencer quand même plus précisément avec TikTok qui serait en train de planifier la sortie d'une nouvelle application TikTok. Mais une application sur quoi ? Ça serait une application de partage de photos et qui viendrait donc directement concurrencer Instagram ici. Comment on le sait ? Ben, tout simplement, il y a eu une notification qui a été envoyée à certains utilisateurs de TikTok qui annonçait justement le lancement d'une nouvelle application de partage de posts photos qui s'appellerait TikTok Notes. Et ça a été rapporté notamment plutôt par TechCrunch. Je vous montre un petit peu la capture qui a été notamment partagée aussi sur Reddit. Donc, voyez un petit peu la notification que les utilisateurs ont vue et qui mentionne « Vos posts de photos seront bientôt montrés sur TikTok Notes. TikTok Notes, une nouvelle application de posts photos, arrive bientôt. Vos posts existants et futurs posts TikTok photos seront montrés sur TikTok Notes. » Si vous préférez justement ne... Et si vous préférez ne pas montrer publiquement vos photos TikTok sur TikTok Notes, vous pouvez désactiver ça maintenant et vous avez la possibilité d'en apprendre plus. Et donc là, vous avez le petit switch ici qui vous permet de désactiver le fait de montrer vos posts photos TikTok sur l'application TikTok Notes. Voilà donc la petite notification que les utilisateurs se sont vus voir proposer sur l'application TikTok ici et qui vous donne du coup la possibilité de opt-out. Voilà. Donc TikTok a même fait une déclaration à TechCrunch hein, quand le média s'est renseigné et ils ont dit qu'ils explorent différentes manières empower, permettre à la communauté de créer et partager leur créativité avec des photos et du texte dans un espace dédié à ces formats. Mais ils n'ont pas communiqué officiellement sur une date de sortie de l'application TikTok Notes, donc on n'a pas d'informations là-dessus. La première fois en tout cas qu'on en a entendu parler hein, de cette application TikTok Notes, ça remonte à il y a un mois quand The Spe Android a creusé un petit peu dans le code de TikTok et a vu qu'ils étaient en train de travailler sur potentiellement une application qui s'appelait TikTok Photo à l'époque. Donc, voilà, évidemment, ils n'étaient peut-être pas encore ils n'avaient pas forcément très acté sur le nom de la nouvelle application. Alors pourquoi ils font ça hein, pourquoi ils notifient les utilisateurs et demandent leur autorisation d'afficher leur post sur TikTok Notes, c'est qu'en fait ces réseaux sociaux, leur succès il est quand même assez lié à est-ce qu'il y a du contenu disponible sur la plateforme. Et donc du coup de court-circuiter ce problème ou même de tuer ce problème dans l'œuf, de pouvoir bénéficier déjà de toute la base de contenu qu'il y a, de la base de photos qui est partagée sur TikTok directement sur TikTok Notes, bah, ça permet à l'application de se lancer beaucoup plus vite et avec déjà une base de contenu préexistante. Et potentiellement, on l'avait vu notamment avec le lancement de Threads, de se reposer sur la base d'utilisateurs d'Instagram pour très facilement créer un compte sur Threads qui, d'un point de vue de compétition, on pourrait potentiellement grincer des dents, parce que ça leur donne un avantage remarquable ici, mais qui est assez logique de vouloir surfer sur cet avantage et d'en profiter. Donc là, c'est tout ce qui se passe ici, c'est qu'ils veulent justement lancer cette nouvelle application avec directement du contenu déjà disponible, évidemment. Donc voilà. Donc voilà en tout cas sur ce qu'on sait de cette potentielle nouvelle application TikTok qui devrait arriver. Pour info d'ailleurs, il y avait la Wayback Machine hein, qui permettait de voir des versions précédentes de sites internet et qui avait justement eu quelques petites choses d'affichées sur le nom de domaine photo.tiktok.com. Je vous montre un petit peu ce qui était affiché. On avait juste l'affichage de quelques petits posts ici, photo. Donc on voit qu'il y a une photo avec un court commentaire, on va dire ça comme ça, qui était affiché juste dessous. On a pas plus. Hein. On a peut-être aussi Opening in TikTok Notes avec le logo peut-être potentiel de l'application, etc. Mais c'est tout. Mais c'est intéressant. Ça nous donne quelques petits indices ici de à quoi ça pourrait ressembler. À prendre avec des pincettes, évidemment. Voilà pour TikTok. Et du coup, ben, Instagram directement visé ici par ce potentiel nouveau compétiteur. Mais Instagram, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont leur propre actualité. Ce qui s'est passé, c'est que Meta a essayé de se défendre contre une attaque de la FTC qui pointe du doigt un peu le monopole de Meta sur différents sujets. Et dans un effort de se défendre et de défendre notamment Instagram, ils ont dû communiquer notamment sur combien de revenus publicitaires ils généraient avec Instagram ces dernières années. Et pourquoi j'en parle ? J'en parle parce que c'est assez intéressant. On s'aperçoit que finalement, Instagram génère plus de revenus publicitaires avec Instagram donc que YouTube ne le fait. Et donc ça, moi, c'est quelque chose qui m'a surpris, pour être honnête. Je ne m'y attendais pas du tout. Et donc, on a quand même en 2021 32,4 milliards de dollars qui ont été générés. Et donc, c'est plus que YouTube qui avait généré, eux, 28,8 milliards de dollars la même année. Et on voit même, grâce à Business Insider, que justement, c'est pas complètement nouveau puisque ça dure depuis quelques années. Le gap, en fait, la différence se voit en 2020, en 2019, où on voit qu'en 2020, c'était 22 millions de dollars, alors que pour YouTube, c'était 19,7 milliards de dollars. Et en 2019, Instagram était à 17,9 milliards de revenus publicitaires, quand YouTube, eux, était à 15,1 milliards de dollars en termes de revenus. Donc ça, c'est assez intéressant. Je trouve ça assez étonnant. Et pour être honnête, parce que je m'y attendais vraiment pas du tout. Et donc, ce qui est intéressant, on peut peut-être essayer de comprendre pourquoi finalement YouTube génère moins de revenus. Ben, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que YouTube donne 55% de chaque dollar publicitaire aux créateurs de contenu, hein, à ceux qui uploadent les vidéos. Alors, ce pourcentage varie en fonction de si on fait partie du programme de YouTube ou pas, etc. Mais en gros, il reverserait en tout cas aux créateurs un pourcentage de revenus sur ses revenus publicitaires beaucoup plus important que ce que ne fait Instagram aujourd'hui. Donc c'est peut-être aussi ça qui expliquerait justement le fait qu'en termes de revenus publicitaires, eh ben, ils sont moins élevés aussi que Instagram. D'autres théories qui sont partagées là dans la chatroom, c'est que potentiellement les bloqueurs de pub joueraient peut-être un rôle aussi sur le fait qu'il y ait un revenu inférieur en ce qui concerne YouTube. Et Not in Range nous dit on zappe moins la pub sur Instagram. On la subit mais on ne peut pas la bloquer, ouais. Donc il y a peut-être ça aussi en effet. Donc je suis peut-être la seule étonnée, mais moi j'étais étonnée. Donc c'est pour ça que je voulais vous le mentionner très rapidement ce matin. Donc voilà, en tout cas vous le saurez, c'est en tout cas moins important en termes de revenus publicitaires du côté de YouTube. Et on termine ce matin, comme promis, on termine et on va parler d'une série qui, moi, fait partie. Désolée, j'ai un truc dans mes cils. Voilà, un poil de chat pour changer. Ils sont vraiment partout. Et donc, je voulais terminer l'émission en vous parlant d'une série télé qui me tient à cœur parce que non seulement la saison 1 a été un gros coup de cœur en ce qui me concerne, mais la saison 2 a été un coup de cœur encore plus important pour moi. Et donc, cette série, c'est Extraordinary. Donc, je vais vous afficher un petit peu à quoi elle ressemble. C'est cette série-là. Voilà, si vous ne connaissiez pas, vous voyez un petit peu quelques visuels ici. Et donc, c'est une série qui est sortie, je pense, l'année dernière, hein, parce que là, on en est à la saison 2, donc je dirais soit 2022, soit 2023, du coup, pour sa première saison. Et donc, on retrouve Jen, on suit Jen, plus précisément un groupe d'amis, mais dont l'héroïne, c'est quand même principalement une jeune femme qui s'appelle Jen, qui vivent dans un monde où les super-pouvoirs font partie de la norme, parce qu'en fait, au passage à l'âge adulte, généralement aux alentours de 18 ans, 20 ans, et ben en fait, chacun se découvre un pouvoir. Voilà, toute la population, finalement, est dotée de pouvoirs. Des pouvoirs qui ne sont pas forcément aussi impressionnants que les pouvoirs qu'on peut trouver chez Marvel, mais qui vont du tout au n'importe quoi, de pouvoir se diviser soi-même et donc pouvoir faire plusieurs tâches à la fois, ce qui est quand même assez pratique et donc un sacré avantage, notamment peut-être au travail, etc., tout simplement permettre de transformer les personnes en miniatures d'elles-mêmes, à les réduire en termes de taille, ou tout simplement avoir un derrière qui permet d'être une imprimante 3D et d'imprimer différentes choses. Voilà, il y a des choses plus ou moins utiles ou tout simplement de pouvoir faire parler les morts aussi. Donc ça aussi, ça peut être utile dans certains cas. Hein. Voilà, mais il y a vraiment tout et n'importe quoi et des dons qui sont complètement loufoques. Ça fait un peu penser à mince, HeroCorp. La série de Simon Astier que j'avais beaucoup aimé aussi, où il y a vraiment des pouvoirs qui sont complètement loufoque. Et donc voilà, ça c'est un peu le monde dont fait partie Jen. Mais ce qui la rend un petit peu spéciale, c'est que Jen, en fait, par rapport à tous ses potes et toutes les personnes que l'on croise, eh ben elle n'a pas encore trouvé ce que c'est son pouvoir. Et donc, elle désespère un petit peu de finalement trouver son pouvoir. Elle se sent un peu laissée derrière, ou un peu genre tout le monde a un peu pitié d'elle parce qu'elle n'a pas de pouvoir, quoi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, le prétexte des pouvoirs, ça va être un peu une métaphore avec tout ce qui va se passer de manière un peu plus profonde dans la société et le groupe d'amis que l'on va suivre. En fait, on s'aperçoit à la fin de la saison 1 que Jen aurait en fait un blocage psychologique par rapport au fait qu'elle n'arrive pas à déclencher son pouvoir suite à la mort de son père, pour lequel elle n'aurait pas fait son deuil. Et donc, du coup, elle va carrément s'embarquer à la fin de la saison 1 elle va tenter d'intégrer en tout cas un espèce de cursus pour découvrir son pouvoir et donc surmonter son blocage qui pourrait l'empêcher de déclencher son pouvoir. Et donc, on part dans cette saison 2 dans une introspection psychologique où c'est assez rigolo, on va avoir quelqu'un qui va permettre d'entrer dans l'esprit de Jen et de s'apercevoir que c'est un bordel sans nom dans l'esprit de Jen avec des espèces d'accumulations de livres. Là, vous pouvez voir un petit peu justement cet aperçu ici où en fait vous voyez Jen qui explore son esprit avec l'aide de l'agent qui l'accompagne dans ce cursus de trouver son pouvoir, qui est juste derrière, là, vous voyez juste la silhouette de l'agent qui l'accompagne derrière et qui lui permet d'explorer son esprit. Et donc, c'est assez rigolo, c'est qu'on voit vraiment... Alors, attendez, j'essaie de trouver un exemple. Voilà. Donc, vous voyez que c'est peuplé de livres complètement désordonnés, mais les titres des livres sont une blague en tant que telle, quoi. Genre, vous trouvez des livres du type « Les pires choses auxquelles j'ai pensé alors que j'étais en train de me masturber ». Et voilà, et c'est cash comme ça. J'espère que je ne vais pas me faire ban par Twitch. J'y ai pas pensé en disant ça. Mais vous avez des titres super cash, super crus et en même temps super vrais. Aussi, enfin, je veux dire, on est tous des humains. Voilà, il y a les crushs du collège que je n'avouerai jamais, ou les crushs inadmissibles. Enfin, plein de choses très marrantes. Les dossiers qu'on a tous. Et là, on pénètre un petit peu dans l'esprit de Jen et on voit qu'elle essaye discrètement de cacher certains livres à son agent parce qu'elle admet pas ça, etc. Et justement, ils vont fouiller un petit peu, essayer de ranger, de mettre dans l'ordre, de l'ordre un petit peu dans l'esprit de Jen pour travailler sur les blocages qu'elle a et potentiellement débloquer son pouvoir. Au-delà de ça, il n'y a pas que Jen, évidemment, qui rentre dans l'histoire. On va aussi suivre le couple d'amis qui sont aussi ses colocataires. On a Cash et Carrie que l'on suit. Cash qui a le pouvoir de... c'était de remonter le temps et qui est dans la saison 1 avait essayé d'empêcher sa petite amie de rompre avec lui. Évidemment, ça n'a pas abouti. Et donc, du coup, ils essayent de naviguer leur relation après leur rupture, alors qu'en fait, ils sont encore colocataires et d'essayer de... de move on, de passer au-delà de leur relation et de redéfinir c'est quoi leur relation maintenant qu'ils ne sont plus en couple. Et ça, c'est assez touchant, assez maladroit, assez touchant. Et puis, on a également le petit ami de Jen, Jizz Lord, un nom assez intéressant, qui a le pouvoir de se transformer en chat, qui lui aussi va naviguer le fait de comprendre d'où il vient, qui il est, parce qu'il était victime d'amnésie. On va découvrir aussi un peu plus d'où il vient, et ça peut surprendre. Et donc, donc on va naviguer un petit peu toutes les relations de ces personnages qui sont plus... qui sont tous plus loufoques, maladroits et attachants les uns que les autres. Et ce qui est la force vraiment de cette série ici, c'est que on rit et on pleure, on rit et on est ému à tous les épisodes, quoi. C'est vraiment assez un équilibre assez parfait que cette série a trouvé. C'est des petits épisodes puisque c'est une comédie, hein, donc 30 minutes. Donc vraiment, ça se regarde très, très, très facilement. Et en fait, à chaque épisode, moi, j'en ris, rien que d'y penser, j'en rigole comme ça, j'en souris encore. Et à la fois, on s'attache terriblement à ces personnages qui sont parfait dans leur imperfection. Les relations sont très touchantes, notamment de Jen avec sa mère. Enfin voilà, vraiment, je vous la conseille. Allez-y, jetez-vous dessus. Donnez-lui une chance parce que vraiment, ce groupe d'amis, bah, on n'a plus envie de s'en séparer. Et de savoir que vous voyez que j'ai terminé la saison 2, en terminant le dernier épisode, j'étais là, non, c'est pas possible. Il va falloir encore que j'attende pour voir les prochains épisodes. Mais c'est un vrai petit bijou. Qui vous permet de vous questionner aussi sur votre propre voilà votre vos propres problématiques et les relations à autrui et sur des thématiques assez profondes comme le deuil, la fin d'une relation, la relation avec les proches, la perception des autres, de ce qu'ils perçoivent de soi, etc. Le fait de se chercher, donc c'est très très chouette. Voilà, donc gros, gros coup de cœur pour moi sur cette saison 2. J'ai cliqué sur cette série par hasard et j'ai adoré. Je regarde un peu vos commentaires. C'est pas trop teen ? Non, moi, je trouve pas. Non, c'est plus adulte, entrer dans l'âge adulte et le fait de se trouver, de se définir. Et je trouve que même toutes ces galères auxquelles on fait face au quotidien, je trouve que ça... Enfin, voilà, c'est pas juste jeune adulte. À un moment donné, t'as carrément le fait qu'un personnage apprend qu'il est père et comment naviguer avec ça, qu'il était en couple posé, enfin, que c'était un peu une autre personne. Comment tu navigues ça? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu aspires? Enfin, voilà, des questions assez, assez profondes aussi, quoi. Donc non, je trouve pas que ce soit trop teeny movie. Moi, je trouve pas que c'est pour ados. Ça peut être, mais je trouve pas. C'est un groupe d'adultes, de jeunes adultes qui vient en colocataire. Donc oui, c'est pas Modern Family, quoi. Voilà. Et le voyage dans le temps, c'est très casse-gueule. Oui, et on s'aperçoit que Cash, qui son pouvoir lui permettait de remonter le temps, bah là, suite à un bouleversement personnel, ça lui permet d'avancer dans le temps. Et donc, du coup, bah voilà, il maîtrise pas. On voit que finalement, il maîtrise pas complètement son pouvoir. On a Carrie aussi, qui finalement, son pouvoir de ramener les morts, enfin, pas de ramener les morts, mais de faire parler les morts, va lui jouer des tours. Donc voilà, on a ça aussi où chaque personnage, finalement, va galérer avec ses pouvoirs. Mais ça, ce n'est qu'un prétexte pour finalement des choses plus profondes. Et c'est ça que je trouve très, très malin de cette série. Dans cette série, c'est qu'elle va trouver vraiment le parfait équilibre en ne jamais utiliser les pouvoirs comme des choses gratuites, mais juste un prétexte à des propos sous-jacents plus intéressants et plus profonds. C'est ça que je trouve intéressant. À ne pas montrer à des enfants. C'est quand même une série très crue, très cash. Donc, c'est pas pour les enfants, non. Oui, j'avais déjà été dithyrambique sur cette série, sur la saison 1. Donc, c'est tout à fait possible que tu en aies entendu parler dans l'émission. Donc, voilà. Donc, gros coup de cœur de mon côté sur cette série. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire en autre série qu'on regarde en ce moment, comme je vous disais, on regarde Shogun. Shogun, qui est une mini-série américaine, qui en fait est déjà une adaptation d'un roman de James Clavell, qui avait déjà été adapté dans une mini-série qui avait été diffusée en 80, avec notamment Richard Chamberlain, pour les plus vieux. Voilà, et cette série, en fait, elle raconte un peu le Japon en 1600, voilà, à sa mort un an auparavant, on a le Taiko, le dirigeant d'un Japon unifié, qui, après une longue période de crise, qui ordonna la création d'un conseil des régents pour diriger le pays jusqu'à ce que son fils soit en âge de lui succéder. Mais très vite, en fait, on se retrouve au cœur des rivalités entre les différents membres du conseil. Du coup, on va avoir aussi une vue dans ce Japon impérial ici, et avec certains qui vont réussir à retourner le conseil. On va avoir aussi le rapport avec un navire néerlandais, l'Erasmus, qui s'échoue sur les côtes japonaises et qui va venir, et qui va se faire capturer, et qui va venir un peu bouleverser certaines croyances avec les Portugais. Catholiques qui essayent de convertir, avec des jésuites portugais qui essayent de convertir les Japonais au catholicisme et qui va être remis en jeu avec l'arrivée justement de ce navire néerlandais. Donc ça, c'est assez, assez intéressant. Comment dire ? Elle est sympa, je ne suis pas emballée. J'ai pas compris la différence entre un taiko et un shogun. Le taiko, c'est un dirigeant d'un Japon unifié. Un shogun, c'est plus un aspect impérial, je dirais. Je suis pas sûre. Attends, j'essaie de trouver. Je regarde. Hein. Ah, d'accord. Le taiko, ça serait plutôt un rôle de conseiller. Le conseiller d'un empereur. Et le shogun, c'est plus l'empereur, du coup, de ce que je comprends. Voilà. Donc, moi aussi, hein, je ne suis pas au fait des rôles là-dessus. Suivant la période, le shogun peut être le chef du Japon ou le numéro 2. Je ne suis pas la plus calée là-dessus. Mais de ce que je vois, le taiku, qui peut être appelé aussi kanpaku, est un régent ou grand rapporteur d'un empereur majeur au Japon. C'est un des titres de noblesse les plus élevés. À l'origine, le titre correspondait davantage à un rôle de premier conseiller ou de premier secrétaire de l'empereur. Par la suite, et à l'usage, il correspondit à un véritable régent destiné non pas à gérer les affaires publiques lors d'une minorité, mais d'un empereur adulte. Voilà, donc tu vois, même dans la définition, c'est un peu entre les deux, quoi. Voilà. Il y a genre empereur assumé ou pas, quoi. Voilà. Donc on regarde cette série. On regarde aussi. Alors moi j'ai regardé la seconde saison de Only Murders in the Building. Donc ça aussi série américaine disponible sur Disney+. Shogun c'est disponible aussi sur Disney+. Je crois, il me semble. Et donc Only Murders in the Building, c'est en fait vous suivez trois personnes qui vivent dans le même bâtiment à New York et qui vont essayer de résoudre un crime qui s'est passé dans leur immeuble. Et là, dans la saison 2, en fait, un autre crime s'est passé d'un personnage qu'on connaissait déjà. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun... le crime va essayer d'inculper les trois personnages que l'on suit parce qu'il va y avoir des preuves incriminantes qui vont être trouvées et qui vont les incriminer eux. Et donc, voilà. Série sympa, c'est une comédie. J'ai trouvé un... C'est pas une de mes séries préférées. Je la trouve sympa, mais sans plus. Par contre, la fin de la saison m'a assez intriguée, j'avoue. Le dernier épisode, avec un nouveau crime qui relance l'intrigue. Et donc là, j'avoue. Et notamment, le crime touche Paul Rudd, l'acteur. Et donc, je trouvais ça assez rigolo. Donc, à voir. À voir. Je continuerai peut-être sur la saison 3. Et ensuite, la dernière série là, qu'on regarde, c'est Le problème à trois corps, je crois qu'il est disponible sur Netflix, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est une série télé de science-fiction qui a été adaptée de la trilogie de Liu Cixin, je ne sais pas comment prononcer, qui est tout récente puisqu'elle a démarré en mars 2024. Et donc, on suit en fait un agent du gouvernement britannique qui s'associe à un groupe d'anciens étudiants de l'université d'Oxford pour enquêter sur une mystérieuse vague de suicides qui touche la communauté scientifique. Et donc, ils vont les amener à un jeu notamment de réalité virtuelle. Voilà, et donc, du coup, qui va pas mal surfer sur des problématiques scientifiques assez intéressantes. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce qu'il y a le plaisir de la découverte. Mais du coup, qui va être aussi une critique d'une certaine Chine aussi. Et donc, assez intéressant. Pour l'instant, voilà, divertissant. Pour l'instant, je ne crie pas au chef-d'œuvre, franchement. Et je ne pense pas que je crierai au chef-d'œuvre non plus. Ça remplit son rôle d'être divertissant. Je trouve ça assez sympa. Ça peut démocratiser un peu ou créer certaines vocations scientifiques. À voir. Mais divertissant, c'est sympa. Tous les acteurs ne sont pas super. Il y a des très bons acteurs. Des acteurs plutôt... certains plutôt clichés. Notamment l'espèce de bimbo scientifique pas du tout crédible là, qui est assez agaçante, qui a un jeu particulièrement agaçant, mais d'autres acteurs que j'aime beaucoup dans la série, que je trouve vraiment convaincants et donc qui me donnent envie de rester. Ah, je vois que Olek est d'accord avec le fait qu'il y a un personnage assez agaçant. Elle est insupportable, hein, franchement. Et alors l'espèce de intrigue amoureuse, je t'aime moi non plus, avec un autre scientifique, insupportable. Les intrigues amoureuses sont assez pénibles dans la série, je vous avoue. Heureusement, c'est franchement pas le principal de l'intrigue, et j'espère qu'à l'avenir, ils vont dégager ça un peu, là. Après, on peut être bimbo et scientifique, ouais, peut-être, hein. Mais là, c'est vraiment too much. C'est vraiment, vraiment too much, quoi. Je suis désolée pour l'actrice, mais elle est vraiment pas convaincante dans son jeu. Elle fait fausse et elle a des tics qui sont assez insupportables. Ça ne m'a pas dérangée, je suis bon public. Non, mais tant mieux, hein, ça ne vous dérange pas. Franchement, et voilà, moi je trouve quand même la série divertissante. Voilà. Je ne relèverai pas le commentaire de Jérôme là-dessus, sur cette série. Bref, voilà un petit peu pour les séries qu'on regarde. Et on regarde Tokyo Vice saison 2, qui vous plonge dans l'univers des Yakuza, je crois dans les années 80 à peu près, qui a inspiré de faits réels, parce que on suit un journaliste qui avait intégré un journaliste américain qui a intégré un journal japonais et qui parle couramment le japonais, tellement qu'il a réussi à intégrer ce journal japonais et qui va plonger dans l'univers des Yakuza et se nouer d'amitié avec un flic spécialisé justement dans les Yakuza, un flic japonais. Et franchement, j'ai beaucoup aimé la saison 1 que j'ai découverte récemment. Et du coup, là, c'est un vrai plaisir de pouvoir enchaîner presque avec la saison 2. J'ai eu quelques semaines de pause entre les deux. Et donc là, on démarre la saison 2 disponible sur Canal+. Voilà. Rien à voir avec Miami Vice. Je crois pas, non. Je crois pas. Après, ça te fait rentrer dans la mafia, ici, mafia japonaise. Plutôt années 90, me dit Jérôme. Ok, merci. Olek nous dit, c'est intéressant, il nous dit « Tokyo Vice, c'est bizarre, parfois ça colle parfaitement au livre et parfois c'est très différent. » Ah, intéressant. Tu me donnes envie de lire les livres. Est-ce que ça vaut le coup de lire les livres, Olek ? Wendigo, tu nous dis « Il a des origines asiatiques parce qu'un Américain chez les Yakuza, ça doit se voir. » Non, alors c'est pas tout à fait la même chose. Il reste journaliste et il enquête en tant que journaliste sur l'univers des Yakuza. Il n'essaye pas de rentrer chez les Yakuza. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant. Donc, non, il n'a pas du tout d'origine asiatique. Il est américain, quoi. Olek nous dit qu'il a préféré les livres. Ça fait bien plus documentaire-témoignage avec de profondes explications sur la société de cette époque. Ah, intéressant, intéressant. Oui, c'est vrai que la série, elle est quand même très divertissante, hein. C'est haletant. Tu sens que c'est romancé, quoi. Voilà. Et du coup, ouais, moi, je suis bien accrochée. Voilà. Bon, il est 9h14. Je vous ai fait une chronique assez en profondeur Désolée, ça fait toujours bobo de dire qu'on a préféré les livres, mais là, je suis obligée. Hein. Mais souvent, moi, c'est aussi le cas. Hein. Donc après, je suis peut-être un peu trop bobo, mais souvent, je préfère les livres aussi. C'est difficile quand on a lu, en plus, les livres avant. Mais bon. Et Kashiro-san nous dit aussi que le problème à trois corps, le livre, semble plus intéressant. Bah oui, moi, je l'avais, ça faisait partie de mes livres à lire. Donc voilà. Sur ce, il est 9h14. J'espère que, en tout cas, la chronique de Extraordinary sur Disney+, sur cette comédie d'adultes, vous donne envie et que les autres séries, bah voilà, peut-être vous interpellent. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le mug. Et sinon, vous retrouvez Jérôme dès jeudi pour le mug aussi. Et je vous souhaite une excellente journée. Avant de se quitter, on va quand même regarder vers qui on peut faire un petit raid pour ne pas vous laisser en plan ce matin. Hop, je regarde rapidement. Si Twitch le veut bien. Hop. Et qu'est-ce qu'on a ce matin d'intéressant? Plein de choses, plein de choses, plein de choses. On va aller faire un tour du côté. Tiens, du côté de Un monde de jeu. Ça a l'air cool, là, le jeu qu'ils sont en train de tester là. Trop bien. Donc, on va faire une petite visite du côté de Un monde de jeu. Et là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!